J'ai eu à 6 ans l'intuition immédiate, intemporelle, adéquate de ce que tous ces livres étaient morts, n'enfermaient rien qui réponde à mes attentes. Tout le disait, le criait, leur dos fourbu, effacé, la poussière fine, très noire, déposée sur la tranche supérieure, l'odeur légèrement âcre d'automne qu'ils exhalaient et qui se mêlait à celle de vieilles pierres, de caves, d'hiver et de passé du grès. Pierre Bergougnou est ce soir notre invité à l'occasion de sa double actualité, un nouveau livre intitulé « Hôtel du Brésil » et puis un essai intitulé « Faute d'égalité ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et pour évoquer les paysages qui vous sont chers, cher Pierre Bergougnou, eh bien nous allons écouter Jean-Louis Murat.
Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez, suez belle tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. L'air est si doux dans la bruyère, où mon sans souci. Dieu les enfants aime la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cadet Roussel pendant ce répit. Venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère au mont sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme David Croquette son large parapluie. Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitare Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère au mont sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit. Quand s'entrouvraient à la lumière les portes du paradis. J'aurais passé ma vie entière au mont sans souci. Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie. Je vais dormir dans la bruyère au mont sans souci.
Combien de temps, Pierre Bergougnou, vous êtes-vous autorisé à rester un enfant ?
Jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est pas moi qui le dis, enfin je le sens, mais un psychanalyste allemand qui s'appelait Grodeck nous a rappelé ou simplement signalé que nous avions tous les âges à chaque instant. Et c'est plus souvent qu'à mon tour que je me surprends à agir, à raisonner comme un garçonnet de 6 ans. Ou un étourdi de 16.
Et pourtant, à vous lire, et ce depuis longtemps, Pierre Bergougnou, on a l'impression que le monde des adultes vous était pesant quand vous étiez petit, que vous n'aviez pas confiance dans ces adultes.
On ne pouvait plus. Les gens de ma génération sont arrivés à la charnière de deux âges, de deux mondes, et... se conformer à ce que les adultes nous disaient, c'était se perdre, à coup sûr. Parce que la grande rumeur du dehors a commencé d'atteindre les cantons périphérique où j'ai vu le jour. Je vais faire le professeur, mais ça ne va pas durer.
Mais alors... vous l'êtes. Mais on adore. J'aurais bien aimé être votre élève.
Alors, le mot adulte vient du latin ad ultima, c'est-à-dire ceux qui sont finis physiquement, moralement, intellectuellement. À l'opposé, l'enfant, c'est infant, celui qui ne parle pas. Donc, les adultes étaient finis, leur siège était fait, comme on dit, et ils n'entendaient pas ces premiers échos en provenance des lointains qui portaient atteinte à ce qu'on pourrait appeler la croyance commune. Il me semblait qu'il y avait une dissonance assez nette entre ce que je recueillais sur place et le bruit, la rumeur intermittente, brouillée, mais la rumeur qui émanait de derrière l'horizon. Alors, il aurait été bien naturellement que ce soit nous, mes petits compatriotes, qui donnions le temps. Par exemple, vous parleriez, et moi aussi d'ailleurs, avec l'accent musical, ingénu, un peu prétentieux, du Bas-Limousin. Mais tel n'est pas le cas.
Vous l'avez perdu, cet accent du Bas-Limousin ?
Alors, lorsque je m'en retourne chez mes petits compatriotes, je le sens qui revient presque à mon insu. Et j'ai également noté que lorsque j'étais en proie à une émotion un peu forte, un peu vive, il crevait en quelque sorte les couches supérieures, les sédiments qui ont déposé du fait de l'âge dans l'intervalle. Et par exemple, je garde très très bien le souvenir d'un jour où j'étais en train d'enguirlander avec feu mes élèves, qui étaient naturellement des petits franciliens, parce qu'ils n'avaient pas fait comme je laisse compter leur travail. Et j'ai surpris un ou deux petits sourires au fond. Alors j'ai fait ce que fait tout professeur en pareil cas, une sorte de pas intérieur de côté pour voir quel personnage je composais qui pouvait prêter à rire et à sourire. Et je me suis rendu compte que sous l'empire de cette colère vraie, c'était avec l'accent de Brive-la-Gaillarde que j'étais en train, allons-y, d'engueuler mes élèves. Voilà.
Aujourd'hui, vous avez perdu toute trace d'accent, mais aujourd'hui, grâce à votre don d'écriture, Pierre Bergougnou, vous retrouvez le goût de votre enfance, un goût un peu âcre, un goût un peu mélancolique, un goût qui tire vers le noir, un goût d'une enfance que vous ne souhaiteriez pas peut-être retrouver, mais qui vous paraissait menaçante.
Parce que on partait seul, sans précepte, sans soutien, puisqu'on ne pouvait plus s'en remettre sur les adultes du soin de nous donner les bonnes directives. Eh bien, il fallait tirer de soi, de son propre fond, deux ou trois règles de conduite qui peut-être, permettraient de parvenir aux fins qu'on ne pouvait plus ne pas se fixer. Et en même temps, comme précisément les adultes qui entouraient les enfants que nous avons été n'étaient pas en mesure de nous livrer le commentaire un peu approché que l'on espérait, eh bien, on se tournait, l'enfant qu'on était en désespoir de cause, vers l'adulte que l'on deviendrait peut-être. Rien n'est aussi étrange quand on a 6 et 10 ans que d'imaginer qu'un jour on ressemblera aux gens âgés, mûrs, qui nous environnent. Et en même temps, bon, quelque chose, une voix discrète nous dit que le temps nous emporte et que, contre toute attente, le moment viendra où l'on composera un personnage aussi regrettable à bien des égards que l'étaient tant d'adultes à mes yeux. Mais on crédite cet adulte que peut-être donc on va devenir des clartés du discernement qui nous manque tragiquement lorsqu'on a 3 mois ou 6 ans, et on lui demande rétroactivement, pour user d'un bien grand mot, d'éclairer par delà l'abîme du temps qui nous sépare la fillette ou le garçonnet qu'on est là actuellement.
Il faut dire que vous arrivez au monde à un moment qui va être un point de basculement,
oui,
de l'univers dans lequel vos propres parents, vos propres grands-parents ont vécu.
Oui.
Et vous allez être sommé, en quelque sorte, intellectuellement assez, oui, jeune, de choisir de partir de cet univers paysan qui s'est enraciné en vous, peut-être inconsciemment, et ce, depuis des générations. Partir pour la grande ville, partir pour faire des études, partir pour devenir professeur. Et on a l'impression que ce choix a été accompagné d'une certaine culpabilité. Je me trompe ?
Non, vous avez tout dit, Laure. La chose excède infiniment ma petite personne et ma brève saison. C'est toute la société française qui, à ce moment-là, est en proie à une profonde métamorphose. Vous avez tout dit, l'événement majeur de ce temps, c'est la disparition brutale, rapide, de la petite paysannerie qui tenait le pays depuis, je pense, 20 ou 25 siècles. Je sais que dans l'immédiat après-guerre, 43 ou 44% de la population française a encore le travail de la terre pour horizon. Je crois qu'on est à 4%. En vertu de quoi cet univers qui vient de s'absenter nous laisse en quelque sorte sur le sable. Il faut inventer un nouveau frais, une autre vie. Et curieusement, c'est vers la grande ville qu'il faut s'acheminer, puisqu'il n'est plus possible de vivre comme on l'a fait depuis les origines jusqu'à nous, non compris, au pays, pour prendre un vieux mot d'ordre des années 70, lorsqu'on a pu encore se bercer d'illusions sur le fait que la transition était accomplie. Oui, partir et accéder à des vues, à des notions, à un langage, un accent, si je puis me permettre, qui nous était très profondément étranger. Ce qui compliquait un peu tout, c'est que précisément, on manquait de l'assistance ou du soutien des adultes. Non seulement ils n'étaient pas en mesure de nous aider et ils n'y pouvaient rien, mais il nous aurait été extrêmement préjudiciable de les écouter.
C'est vous, Pierre Bergougnoux, qui avez choisi ce changement de vie et cette nouvelle identité, ou ce sont les mots qui vous ont ordonné de partir de votre milieu paysan ?
Tout cela s'est fait dans l'espèce de demi-conscience de la fin de l'enfance et du début de l'adolescence. Mais au nombre des choses que j'ai senties très fortement, il y avait, et sans doute au premier rang, Le divorce accompli, consommé, entre ce que nous faisions, disions, sentions, pensions, sur place, dans ces lointains départements du pays, et puis ce que disaient ceux qui habitaient au loin, et plus précisément, puisque nous sommes un pays très anciennement et très fortement centralisé, à Paris, avec cette espèce de trait distinctif qu'était l'accent parisien, s'il m'est permis de le moquer un petit peu.
Les mots vous ont guidé tout au long de votre existence, ils continuent à vous guider. Vous êtes un fou amoureux des livres, des bibliothèques, des heures enfermées dans les bibliothèques qui sont comme des cavernes du savoir, mais aussi des lieux où on vient ressourcer sa propre existence et où on se sent vivant. Comme si effectivement lire c'était vivre et que lire c'est beaucoup plus intéressant de vivre quand on lit que de vivre vraiment ce que le réel vous offre.
Je vous réponds dans la simplicité de mon cœur. J'aurais bien aimé vivre, mais il s'est trouvé que, faute que ce qui me précédait, ait eu accès au texte de leurs petits moments. Ils m'ont laissé...
C'est-à-dire
Eh bien, j'ai parfois imaginé que j'aurais pu, précisément, en regardant par-dessus mon épaule, voir s'échelonner une lignée d'adultes éclairés, instruits, doctes, savants, qui m'auraient rapidement mis au fait de ce qui se passait, ce qui fait que, au lieu de m'ensevelir très tôt dans les livres pour n'en plus sortir, j'aurais pu consacrer une partie de mon temps à vivre. Mais du fait du retard vertigineux que marquait mon canton sur ce qu'on pourrait appeler le mouvement général, il m'a fallu lire, non pas seulement pour aujourd'hui et pour demain, mais pour hier aussi. C'est-à-dire assimiler ce texte qui accompagne en France la vie depuis à peu près un demi-millénaire. Je ne suis pas chauvin. Je crois même n'être pas incapable d'impartialité. Mais je ne sache pas qu'il y ait sur la Terre un seul pays où l'on ait fait un cas aussi considérable que nous de cette version approchée de la vie qu'on appelle la littérature. Ça fait cinq siècles que principalement des aristocrates, des hobereaux de province ou de la cour, plus tard des bourgeois métropolitains de la France septentrionale, se sont appliqués à décrire méticuleusement, brillamment, splendidement la matière dont sont faits nos jours. J'aurais bien aimé tôt avoir accès à cette espèce de légende, ce qui doit être lu. Mais par exemple, mon département natal, dès qu'on s'écartait de la sous-préfecture où j'ai vu le jour, continuait de parler ce qu'on appelait le patois, le parler paton, qui était la langue d'oc, hein, un dialecte qui a été en quelque sorte frappé de déshérence lorsque, je vais être très précis, en 1539, le roi François a paraphé l'édit de Villers-Cotterêts, qui rendait obligatoire l'usage du langage maternel français pour tous les actes publics, et en particulier la littérature, de sorte que, par exemple, sans avoir à regarder trop loin, j'avais pour petit voisin périgourdin un garçon qui s'appelait Michel Ekem, seigneur de Montaigne. Alors, il était trilingue, il parlait latin, du moins lorsqu'il était jeune, avec son précepteur, gascon à ses manants, qu'il traitait de veau, de badin, de pasquin. Et lorsqu'il s'est agi, non pas d'écrire, mais de dicter ses essais, qui sont une pure merveille, il l'a fait en français. Donc, j'aurais bien aimé vivre, mais il s'est trouvé que du fait du retard séculaire que nous avions pris, j'avais double et triple besogne sur les bras, puisqu'il me fallait en quelque sorte récapituler ce qui n'avait pu être fait au préalable. Si je voulais donner corps à la prétention, sacrilège, voire criminel, d'être au monde ou de vivre au présent.
Et aujourd'hui, vous avez l'impression de vivre, Pierre Bergougnou. Vous ne vivez que pendant les moments où vous écrivez. Je rappelle que vous êtes un écrivain qui tenait vos carnets et que vous avez une œuvre magistrale dans différents registres, et notamment celui de l'essai, celui du roman, celui de la retranscription au quotidien de toutes ces activités. Et dans ces carnets qui sont publiés tous les 10 ans et qui font 800 ou 900 pages, on s'aperçoit que votre activité quotidienne, c'est quoi ? Quand vous ne mettez pas en marche la machine à laver le linge ou la vaisselle, quand vous n'allez pas couper du bois, bon, ça, ces deux activités peuvent prendre peut-être un quart d'heure par jour, le reste du temps, vous faites quoi ? Vous écrivez.
Je m'applique à repousser les ombres dont je me suis tôt et épaissement environné. J'ai perçu des ombres là où, juste avant nous, avant notre génération, on ne voyait pas mystère, si je puis dire, parce qu'on n'avait pas de contact avec le dehors, et le fait qu'on parlât patois en était le signe le moins équivoque qui soit. Quand on a pour langue véhiculaire un dialecte qui cesse compris à la frontière du canton, ça signifie en retour qu'on n'entend pas ce que le grand dehors nous dit. Le mot idiot vient du latin, du grec, qui veut dire être seul. Nous étions seuls. Et puis, par l'effet de tous les bouleversements qui ont marqué la vie du pays, en particulier la révolution des transports, les trains arrivent, l'information aussi à la radio, la télévision, on s'avise que, eh bien, rien ne va de soi, contrairement à ce que nos devanciers avaient pu imaginer. Et que si on veut être au monde, au vrai, à sa totalité, eh bien, il faut s'ensevelir dans l'étude pour n'enlever le nez qu'après que on aura un petit peu débrouillé l'espèce d'énigme qui nous a été allouée. C'est pour ça que je passe le plus clair de chacun de mes jours et depuis toujours enseveli dans des livres et de temps à autre, honteusement, à gribouiller deux ou trois lignes qui auraient pour vertu peut-être de dissiper ces ombres, de défaire ces énigmes auxquelles il me semble que nous sommes heurtés d'emblée.
Les livres, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous écrivez des livres, vous avez enseigné pendant très longtemps la littérature et vous allez acheter des livres.
Oui.
Par kilo. Oui. Toutes vos économies, vous les passez à acheter des livres chez des libraires d'occasion. Les murs sont comme des espèces de forteresses. Les livres sont aux murs comme des forteresses invisibles qui viendraient par leur vertu magique Vous protégez Pierre Bergougnoux ?
Me protéger, oui, surtout, m'aider à accéder à ceux qui nous trompent de prime abord et ne nous livrera sa vérité secrète, seconde, que sous la réserve qu'on aura passé par les défilés du papier imprimé. Ça n'est pas impunément que, depuis qu'il y a des hommes qui pensent, pour citer La Bruyère, eh bien, nous disposons de parallépipèdes de papier imprimé qui ont pour vertu de nous laver de l'espèce de peine, de souffrance, allons-y, que c'est de rester bouche bée, les bras ballants devant quelque chose que nous n'avons ni l'intelligence, ni la force de comprendre. Les livres sont là, par bonheur, la foule des absents ou des morts, ils sont légion et là pour nous faciliter la tâche. Et permettre quoi ? Permettre que peut-être nous soyons présents véritablement, c'est-à-dire doublement, à la fois par corps et en conscience, à notre existence. C'est une prétention dont je suis le premier à admettre, à considérer qu'elle est exagérée, qu'elle est énorme, qu'elle est criminelle, mais il n'en demeure pas moins que les circonstances ont permis que je la forme et fidèle au gosse de 6 mois ou de 6 ans que je fus, eh bien je m'y tiens.
Vous publiez ces jours-ci un livre intitulé « Hôtel du Brésil ». Il est publié dans une collection qui s'intitule « Connaissance de l'inconscient » chez Gallimard et qui est dédiée à la psychanalyse. C'est un livre envoûtant pour plusieurs raisons, notamment parce que vous avez déployé encore une fois votre art de l'écriture pour essayer de dénouer des énigmes, mais aussi parce que, alors peut-être que c'est le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du paysan de Brive-la-Gaillarde, mais on vous la fait pas. Avec la psychanalyse, vous n'y croyez pas vraiment. Alors pour vous, Pierre Bergougnoux, mais aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu cette archive assez exceptionnelle, je vous propose d'écouter l'unique archive que nous possédons en France. C'est une archive de Sigmund Freud, datée du 7 décembre 1938, enregistrée par la BBC à son propre domicile. Écoutez la voix de Sigmund Freud.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a path of psychology, and a new method of treatment of the neurosis.
Alors, c'est un document sonore qui est extrêmement fragile, on entend assez mal la voix de Freud, mais manifestement il fait une allusion à Joseph Breuer, qui était médecin et physiologiste d'origine autrichienne qui s'intéressa à l'hystérie et qui est connu pour avoir pris en charge la patiente Bertha Pappenheim, qui a été étudiée sous le pseudonyme d'Anna O par Sigmund Freud lui-même, ce qui a contribué à l'élaboration de la psychanalyse. Et vous, dans ce texte, Pierre Bergougnoux, Hôtel du Brésil, eh bien, la psychanalyse vous intéresse comme science, vous ne la récusez pas, mais pas forcément pour vous, pour essayer d'élucider vos propres tourments et vos propres mystères les plus intimes. Pourquoi ?
Eh bien, voilà.
Il n'y a pas de divan hein, dans ce studio. Non. On est tous les deux assis dans des sièges. Il n'y a pas de divan.
Bien tranquillement, comme on dit aujourd'hui. Alors voilà, la psychanalyse est à la fois une science et une thérapeutique contemporaine. elle est née dans les grandes métropoles de la fin du 19e siècle. Curieusement, à Paris d'abord, sur la lèvre de Charcot. Et elle a connu son épanouissement, sa plénitude à Vienne par la faveur de Sigmund Freud. Je vais faire allusion à un psychanalyste français disparu voilà une quarantaine d'années qui s'appelait Jacques Lacan, le psychanalyste parisien dans toute sa magnificence. Et à la première page de ses écrits, il dit ceci. Le style, c'est l'homme. Bon, oui, d'accord, ça fait 200 ans qu'on le savait. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait de bien neuf à reprendre cette assertion de Buffon. Mais trois lignes après, Lacan ajoute « Le style, c'est l'homme. À qui l'on s'adresse ?» Pour dire les choses autrement, il le fait « Le sujet, vous, moi, reçoit de l'autre son message sous forme inversée. » De qui Charcot, de qui Freud reçoivent-ils leur message sous forme inversée? Eh bien, de cette élite de la population qui vit dans les grandes villes, dans les resplendissantes cités qui ont poussé partout dans les pays développés, spécialement en Europe occidentale, avec la révolution industrielle et la révolution française. Je n'appartiens pas à cette humanité citadine. Ça n'est pas mon langage que reçoivent les psychanalystes sous sa forme inversée, mais celui de cette humanité urbaine, très cultivée et sujette à ces mots que cet univers très particulier que constitue la grande ville constitue. J'ai lu récemment, mais je ne sais plus où, que au XXIe siècle, la maladie qui occupe le premier rang, c'est la maladie mentale. Tous les fléaux dont l'humanité a été battue avaient très certainement des sources bactériologiques, microbiennes, mais il me semble qu'ils avaient d'abord et avant tout une physionomie historique. Par exemple, le choléra, la peste, la variole sont les maladies du Moyen-Âge. Elles sont liées aux premiers échanges entre l'Europe et l'Orient. Il me semble manifeste que la tuberculose est la maladie des classes laborieuses du 19e siècle du capitalisme naissant, lorsque le prolétariat ouvrier se trouve confiné dans des taudis sans air, sans lumière, alors que la paysannerie est relativement épargnée par la tuberculose. La maladie, semble-t-il, du troisième millénaire, ce semble être la maladie mentale, et c'est profond, ces puissants génies qui étaient Freud et Charcot, les premiers, ont décelé ces troubles qui ne répondent pas à une lésion organique, mais sont proprement des mots symboliques, urbains, citadins, modernes. Comme je sors des cantons perdus de la Gaule chevelue, j'ai été épargné.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Pierre Bergougnou. C'est un extrait de King Arthur de Purcell. Vous publiez simultanément, Pierre Bergougnou, un ouvrage intitulé « Faute d'égalité ». C'est un texte extrêmement politique, dans le sens le plus noble du terme, où vous vous livrez à un exercice de réflexion philosophique sur l'absence d'événements majeurs que nous traversons depuis des décennies. Je vais lire quelques petites phrases de cet ouvrage, je vous cite. « Depuis le 30 mai 1968 au soir, je ne me retirerai pas de Gaulle, il ne s'est rien passé en France. Les derniers gouvernements ont mis le meilleur de leurs soins à ne surtout toucher à rien, aidés en cela, il est vrai, par le discrédit où le socialisme réel était tombé avant de péricliter. » Vous avez l'impression qu'on traverse des temps morts depuis très longtemps.
Depuis un demi-siècle à peu près, oui. Oui, oui, surtout pour les gens...
C'est pas pour autant qu'on va réclamer des guerres.
Certainement pas. Mais comment les gens de mon âge ne se souviennent...
Vous avez quel âge ?
J'ai 70 ans.
Bah, vous êtes jeune.
Permettez que je souris avec amertume, Laure. J'avais 18 ans le 10 mai 68. Je suis né à la politique avec une bonne partie de ma génération. Tout a paru possible, l'espace d'un matin. Et il est difficile d'oublier ces instants de grâce où c'est possible, on parut du moins scintiller à l'horizon avant l'espèce de retombée qui a suivi immédiatement et dont il ne me semble pas que nous soyons encore sortis. Ce sont les récriminations d'un barbon. J'ai ces souvenirs présents à l'esprit toujours. Et par suite, il m'est difficile de trouver mon compte à ce qui a pu arriver dans l'intervalle.
D'un barbon, mais d'un barbon bien informé, qui manifestement s'intéresse au pouls de la société, et qui curieusement s'enflamme pour les gilets jaunes.
S'enflamme n'est peut-être pas le mot. J'essaie de comprendre ce qui se passe.
Vous avez beaucoup de sympathie pour ce qui s'est passé pendant des mois. Et ce mot de dignité qui était réclamé par l'ensemble des manifestantes et des manifestants, ce mot de dignité, vous dites, dans ce texte qui vient d'être publié ces jours-ci, vous dites qu'on ne l'avait pas entendu depuis longtemps et que ça secoue notre torpeur.
Vous avez raison, oui, effectivement, c'est un mot relativement neuf que celui de dignité. Pour le reste, j'ai été déconcerté, mais je pense n'être pas le seul par le fait que ce mouvement contournait les classiques filières, chemins qu'empruntent toute espèce d'actions, de revendications politiques. Et ce qui me trouble plus encore, c'est le fait que sous ce jaune fluorescent se retrouvent des gens que tout a toujours séparés, ou des groupes, ou des classes sociales qui divergent sur les valeurs, mais en gros la gauche ou l'extrême gauche, et puis l'extrême droite. On se retrouve ensemble à battre le pavé, à tenir les ronds-points dans la campagne, dans les beaux quartiers. Et ça va à l'encontre de toute mon expérience. Mais s'il est vrai que mon expérience est assez déconcertante et désolante, puisque ça fait 50 ans que je constate que rien ne se passe de ce que j'avais imaginé, rien ne doit être plus naturel aux yeux du vieux monsieur que je suis, bien sûr, que le caractère très insolite qu'a revêtu ce mouvement des Gilets jaunes.
Vous revenez historiquement sur les racines de cette demande d'égalité à l'intérieur du peuple français. Vous nous rappelez les pages les plus émouvantes et les plus fondatrices de notre République en rappelant les faits historiques de certains moments de la Révolution. Vous nous expliquez magnifiquement comment les philosophes, et notamment Jean-Jacques Rousseau que vous citez abondamment, ont placé au cœur de leur réflexion, mais aussi de leur pratique, qui a été contagieuse aussi et qui a été entraînante pour les hommes politiques qui ont dirigé et vécu cette Révolution française, à quel point l'égalité était le fondement de notre pacte républicain. Aujourd'hui, cette égalité, elle est où ? Cette demande d'égalité, elle est où ?
Dans nos cœurs. Selon toute vraisemblance, c'est la passion dominante du peuple français. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Tocqueville, qui était plutôt un homme de droite. Et assez régulièrement, et ça me réjouit un degré que vous ne sauriez imaginer, je constate que mes concitoyens, compatriotes, ont la fibre égalitaire. Alors ça n'est pas parce que l'égalité réelle est foulée aux pieds que nous ne portons pas en nous, ou l'avons-nous absorbé peut-être avec le lait maternel, cette aspiration à l'égalité. Et ce qui est émouvant, c'est lorsque on scrute le passé, on en voit ici et là, partout, des signes annonciateurs avant même que la révolution de 1789 n'éclate, enfin, comme un coup de tonnerre au ciel bleu, ça n'est peut-être pas le mot, mais que les patriotes constitutionnels décrètent que désormais nous allions vivre en république et que la maxime de cette république serait liberté, égalité, fraternité, avec même au pire moment les trois mots supplémentaires qu'ils avaient dû ajouter à cette trinité, ou la mort. Ça barde. Bon, Rousseau est celui que l'injustice, l'inégalité révoltait. Mais lorsqu'on examine la tradition philosophique française, nous avons très peu de philosophes, et c'est bien naturel, parce que nous n'avons pas besoin de philosophie. J'entends par là que la philosophie consiste à penser ce que les autres font. Comme nous avons toujours été dotés d'un État puissamment centralisé, avec un vouloir impérieux, eh bien, nous pouvions faire, si je puis m'exprimer de la sorte, ce que nous voulions. Au lieu que, par exemple, un pays comme l'Allemagne, qui restait longtemps morcelé en petit duché, hein, eh bien, se trouvait réduit, faute de pouvoir participer au jeu mondial, à penser ce que faisaient ses voisins. Donc, nous avons assez peu de philosophes, mais rien n'était mouvant, à mes yeux, encore, du moins, comme la dimension égalitaire de ces philosophies. Je pense à quelqu'un à qui on ne pense pas immédiatement lorsque on songe à Descartes. Bon, Descartes commence son discours de la méthode, qui est le texte fondateur du grand rationalisme européen et aujourd'hui mondial, par ces mots: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il accorde à tous ses semblables cette égale dignité dans le registre limpide, resplendissant de la pensée. Bon, une anecdote m'avait amusé. On a retrouvé les travaux de jeunesse du champion allemand de l'idéalisme, qui s'appelait Hegel, qui vivait là-bas, de l'autre côté du Rhin. Et on a découvert que les marges en sont barbouillées de Jean-Jacques énamouré. Il ne rêvait que de Jean-Jacques. Un autre philosophe allemand, un peu plus tôt, qui s'appelait Immanuel Kant, qui était une sorte d'automate, vivait dans une demeure spartiate. Il n'y avait qu'un seul objet décoratif, c'est un portrait de Rousseau. Bon, Rousseau est français, nous sommes français, je veux croire que quelque chose demeure de 140 ans, ou peu s'en faut, qui nous a quittés dans nos valeurs les plus fondamentales, nos passions, nos impulsions, nos engagements, notre volonté, notre espérance, notre projet, notre dessein. Je vais parler comme le capitaine de l'équipe de rugby de Béziers. Vous êtes prête, Laure ?
Ah oui !
Voilà, alors...
Au taquet !
L'équipe de Béziers avait gagné contre toute attente face à je ne sais trop quelle équipe anglaise. Alors, une foule de micros se tend vers le capitaine de Béziers et en lui demandant: mais comment se fait-il que vous ayez gagné? Et il a répondu avec l'accent de Béziers que j'imite assez mal: We are French. Bon, c'est un trait qui nous est propre, que cet amour immodéré pour l'égalité Et je suis comme les
Catholiques. Vous voulez dire qu'on n'aime pas assez notre propre pays, nos propres philosophes et nos propres talents pour essayer d'être plus égaux entre nous
je veux dire,
notre propre volonté.
Je veux dire que nous avons cet amour de l'égalité. Bon, il semblerait qu'il soit encore loin encore d'avoir passé dans les faits, d'être entré dans la vie, dans les mœurs, dans les institutions. Mais je ne le crois pas périssable. J'espère toujours, quoique j'aimerais bien que les choses se fassent un peu vite parce qu'il ne me reste plus tellement de temps.
Pourquoi ?
Mais parce que je vois très bien le chiffre de mon âge et que je sais que... Passons à autre chose, alors.
Vous avez de nombreux fans, vous le savez. J'arriverai pas à vous faire rougir. Ces fans sont de différentes origines. Il y a des fils et des petits-fils de paysans. Il y a des gens qui viennent de la haute bourgeoisie. Il y a des gens qui font des CAP agricoles, parce que j'ai oublié de dire que vous avez des registres extrêmement variés et que vous avez publié notamment un livre qui s'intitule « Esthétique du machinisme agricole ». Donc on étudie aussi la manière dont vous cartographiez le fonctionnement des machines agricoles aujourd'hui. Bref, vous avez des fans de différentes générations et de différents horizons. Eh bien, nous en avons choisi un. Il se trouve qu'il est comédien. En tant que comédien, il est plutôt reconnu. Il s'appelle Denis Podalydès. Écoutez ce qu'il dit de vous.
Je lis la première phrase d'une des dernières publications de Pierre, lundi, chez Galilée. Cette phrase la voici. « Si vif, tenace, pénétrant était le déplaisir qui s'attachait au lundi de l'enfance et de l'adolescence, que je les ai évités plus tard. » Lorsque je suis revenu au passé pour essayer de le tirer au clair et m'en débarrasser. J'ai l'impression que dans cette phrase, il y a une grande part de l'œuvre de Pierre, sinon presque tout, ce passé à tirer au clair et dont il faut se débarrasser, ce passé qu'on n'enjolive jamais, dont on raconte toujours l'ingratitude, la part grise, la part mélancolique, mais fondue dans une sorte de grisaille générale où la langue de Pierre vient chercher des détails, des visages, des accents, des aspects dans le paysage ou dans la ville qui donnent à cette littérature, à cette œuvre, une âpreté singulière, mais aussi pour moi, une force très très émouvante et une force historique, parce que je crois que c'est un des seuls écrivains à rendre compte de la manière la plus détaillée et la plus totalisante, la disparition du monde paysan, disons, entre la moitié du 19e siècle et les années 60-70 au 20e siècle. Un engloutissement qui s'est presque achevé, c'est-à-dire sans faire de bruit. Et l'œuvre de Pierre rappelle ça, et tous les gens de ma génération, je pense, sont particulièrement touchés par ça. Nous étions à la toute fin de cette disparition. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est consommé, mais en même temps, un monde a émergé de ça, et c'est aussi ce monde-là que Pierre permet de voir, d'entrevoir, de mieux comprendre.
Commentaire du professeur Bergugnou.
Que dire que c'est une chose réconfortante que de constater que ceux qui viennent après entendent encore un peu ce que nous avons pu dire de ce à quoi nous avons été confrontés, affrontés lorsque ce fut notre petit moment.
Mais je ne dirais pas que vous êtes seulement le clinicien d'un monde aujourd'hui révolu. Je dirais aussi que plus vos écrits avancent, plus vous êtes celui qui nous donne de l'espérance. Vous avez magistralement écrit dans plusieurs de vos livres à quel point il vous a fallu attendre pour avoir l'espérance du bonheur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre bonheur, c'est d'essayer de penser votre présent, notre présent, mais aussi notre avenir. Et que, je ne sais pas si c'est animé par la force de l'utopie, mais on a l'impression que Vous êtes déterminé à ce que le monde se transforme vers plus de fraternité, plus d'égalité. Et pas seulement par les mots que vous écrivez, mais aussi par les actions que nous pouvons, chacun d'entre nous, déployer.
À quoi bon vivre si on n'a pas devant soi cette espérance millénariste? Quand même, tous les essais, toutes les expériences ont été autant d'erreurs, voire de désastres. J'ai milité activement, quand j'étais jeune, sous le rouge étendard du Parti communiste. J'ai eu la sottise, la simplicité d'imaginer que ce qu'on appelait socialisme réel pouvait survivre à ces démons. Ils l'ont dévoré. Je me retrouve avec toute ma génération dans une espèce de vide. Mais je ne désespère pas que ceux qui viennent après, s'ils ont ce même goût que nous, ce même amour pour l'égalité, ne feront pas autrement ce qu'il faut. Il n'est pas question de supporter pareille disparité de conditions, qu'il y ait encore des humiliés, des exploités, des opprimés, on ne peut pas. Donc je n'ai aucune espèce d'illusion sur la possibilité de voir de mon vivant ce à quoi j'aspire et à quoi en vérité on aspire depuis le fond des temps, depuis Spartacus. Mais je veux croire que rien ne se perd ni ne meurt et que cet idéal passera du ciel sur la terre. J'espère.
La pensée a dépouillé ses enveloppes matérielles pour chevaucher les électrons. Nos vies s'en trouvent changées, donc les luttes. Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la mobilisation, les portables multifonctions dans les manifestations. Le moindre incident est filmé 50 fois, immédiatement diffusé, commenté, exploité. Expliquez-vous à la fin de cet ouvrage intitulé « Égalité ». Mais vous terminez par ces mots, l'histoire n'est peut-être pas finie, mais comment pourra se mener cette lutte? D'abord pour penser notre propre présent.
C'est la tâche des nouveaux arrivants. Je suis comme les adultes de mon enfance, je suis fini. Les pensées qui m'occupent portent le sceau, le poinçon du temps dont je suis, de mes jeunes années. Au nombre des choses qui me déconcertent, les allures, le langage des gamins et des gamines de 20 ans et 30 ans que je vois partout autour de moi, chaque fois que je mets le nez hors de mon réduit. Ils sont de leur temps, c'est à eux de former des pensées qui lui soient accordées et en tirer les conséquences. Ils sont les contemporains de ce qui, je m'avance beaucoup, semble devoir être la troisième et dernière révolution du mode technologique de communication. La première révolution, c'est l'invention de l'écriture. La deuxième, c'est sa mécanisation à Strasbourg et à Nuremberg, avec Gutenberg vers 1450. La dernière, c'est Internet, c'est le numérique, c'est la dématérialisation des signes. Et il m'est arrivé d'imaginer quelle serait la stupeur, mettons, de quelqu'un du début du XIXe siècle, la huitième génération, si magiquement il était transporté dans ce studio de France Inter. Il tomberait à la renverse. Il croirait entrer dans un monde enchanté. J'ose à peine imaginer ce que sera le monde, non pas deux siècles d'ici, mais dans seulement, mettons, 50 ans, deux générations, après que la révolution numérique aura produit tous ses effets. Donc, je suis en quelque sorte sur la touche, j'ai mal au dos, j'ai un peu mal au cœur aussi, parfois, j'observe avec attention, sympathie, les agissements des nouveaux arrivants. C'est entre leurs mains que repose l'avenir. Je vais citer George Washington, j'ai eu mon jour.
Mais vous avez aussi, cette nuit, vous allez quitter ce studio, vous allez rentrer chez vous. Et vous allez faire quoi? Lire ou écrire, Pierre Bergugno?
J'ai gardé de ma rustique jeunesse l'habitude de me coucher tôt et de me lever tôt. Donc je pense qu'à peine aurais-je quitté le studio, que j'irai goûter un sommeil réparateur.
Je voudrais qu'on termine sur votre mère, Pierre Bergugno. Vous avez publié un ouvrage il n'y a pas si longtemps qui s'intitule « Cousu ensemble ».
Oui.
Et en deux chapitres, vous faites l'éloge de votre mère, vous dites qu'elle parlait peu, vous dites qu'elle était toujours là, vous dites qu'elle ne vous a jamais flétri par les mots qu'elle a employés quand elle vous parlait, vous dites qu'elle n'a jamais moqué vos petites lubies, et vous dites que elle s'est toujours occupée de vous parce qu'elle ne vous a jamais désapprouvé et que donc vous pouviez persévérer.
Oui.
Ça veut dire quoi, persévérer ? Dans l'existence ?
Vous avez dit le mot. Persévérer dans son maître et non pas se détruire. J'avais effectivement le crâne farci de lubies, me regardait comme quelque chose de curieux, dont peut-être il valait mieux débarrasser la surface de la planète. Et jamais, à aucun moment, ma mère n'a cru devoir désavouer telle ou telle fantaisie qui me... Deux, trois exemples. Je ramenais des insectes à la maison, pleine boîte d'insectes qui grouillaient, qui sentaient pas bon, des cailloux, enfin bon, jamais ma mère n'a eu un mot pour me désavouer. Et je lui en suis infi... Nos mères sont là pour nous sauver. Et j'ai bénéficié de cette faveur. Non, pareil, j'avais une mère qui m'a sauvé.
Ben merci beaucoup, Pierre Bergougnou. J'espère que vous êtes en train d'écrire le prochain livre.
Il est fini.
Il porte sur quoi ?
Sur les enfantillages.
Vous êtes resté un enfant, au fond.
Intérieurement, peut-être bien. Mais pas toujours non plus. Par moments.
Ben merci beaucoup, Pierre Bergougnou. On attend avec impatience le nouveau livre, mais pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas l'œuvre de Pierre Bergougnou, je les envie beaucoup. D'abord pour la joie qu'ils vont éprouver à vous lire, mais aussi parce qu'ils vont passer beaucoup de temps à vous lire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et qui sont tous très passionnants. En tout cas, les deux derniers qui viennent de sortir ces jours-ci, un manifeste poétique, politique, historique et utopique dont on a bien besoin en ces temps d'aujourd'hui qui s'intitule « Faute d'égalité », c'est aux éditions Gallimard, et un livre sur les origines, les publics de la psychanalyse, un livre très drôle qui s'intitule « Hôtel du Brésil », c'est aussi aux éditions Gallimard. Et puis, je vois qu'il est 20h58, le temps passe très vite avec vous, mon cher Pierre. On n'a pas eu le temps de passer la dernière musique, on a écouté la musique de vos mots. Mais par contre, après le prochain journal de la rédaction, ça sera la musique par Mishka. Alors Mishka, vous êtes là.
Mais oui.
Allez-vous nous faire voyager,
oui,
de manière aussi intense et poétique, oh ben, qu'hier soir, par les documents sonores, notamment ceux de Bob Dylan et des musiques et des chansons de Bob Dylan intégrales que vous nous avez, oui, offert hier. Est-ce que ça continue l'enchantement Dylan ?
Alors non, ça sera plus Dylan, mais je suis d'accord avec vous, j'ai mis la main, enfin moi j'ai pas grand mérite, mais il y a une manne extraordinaire qui nous a plu dessus, ces enregistrements de cette tournée de 75. Enfin, j'encourage les auditeurs à écouter les podcasts, parce que, mais ce soir on va à la Nouvelle-Orléans, alors voilà,
bon,
c'est différent.
Alors à tout à l'heure à New Orleans.
Voilà, à tout à l'heure.